Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h32, ça s'appelle Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes à disposer de leur corps. Bertoul Borobek est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Bertoul Borobek, alors vous racontez en fait votre vie, travailleuse en fait du sexe, hein, ouais. Et vous racontez tout, quand vous avez démarré, pourquoi vous le faites. C'est un manifeste, véritablement, vous voulez vous faire entendre sur le droit à disposer en fait de votre corps. Est-ce que c'est à la suite de la vague MeToo et de la libération aussi de la parole que vous avez voulu vous faire entendre?
Alors je pense que oui, ça coïncide avec cette période où la parole s'est pas mal libérée sur tous les sujets qui touchent aux oppressions que les femmes subissent.
Oui.
Mais du coup, j'ai quand même ressenti le besoin d'écrire pour d'autres raisons plus que ce mouvement MeToo,
oui.
Qui était aussi notamment le manque de représentation en fait des personnes ayant mon profil dans l'espace littéraire et médiatique en France.
Oui, c'est-à-dire votre profil, personne noire.
Qui est une femme noire, qui est aussi queer, qui n'est pas hétérosexuelle, qui est travailleuse du sexe, donc qui finalement ne fait pas partie nécessairement des normes
oui,
de la majorité.
Oui, et d'ailleurs, c'est ce que vous dites, parce que ça a commencé toute petite. Hein. Vous dites, on me regardait différemment. Parce que vous étiez dans un milieu, ou pourquoi vous étiez la seule noire parmi les...
Non, non, j'étais pas la seule. Non, j'ai grandi quand même dans un environnement majoritairement blanc, mais ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes
bien
noires
sûr,
en France,
sûr,
en fait,
sûr,
logiquement. Non, c'est simplement... mon propre vécu, moi aussi, que j'ai finalement, en étant adulte, pu mettre en parallèle avec des vécus de femmes noires, que je ne connaissais pas à l'époque, qui font partie de mouvements féministes et qui, finalement, en mettant nos vécus en commun, on a pu se rendre compte que finalement, c'était vraiment une tendance.
Il y avait un autre regard sur vous,
une fétichisation, une hypersexualisation des petites filles noires, parce que souvent, on a du mal à les prendre pour des petites filles qu'elles sont, et on a tendance à les penser
beaucoup
plus âgées.
Mais de la part de qui de garçons,
de
votre âge,
d'hommes plus âgés. De l'âge de mon père, toujours le même profil, donc homme, blanc, plus âgé, voilà.
Ouais, et ça, vous l'avez vécu, vous l'avez ressenti à partir de quel âge, alors,
ça, très très tôt, mais les premières fois où ça a été vraiment explicité, on m'a dit des choses vraiment sexuelles,
c'était mais ça, 12, vous le racontez, on va peut-être 12, pas forcément vous dire à 9h, oui, c'est ça, 9h30 du matin. Ouais.
Je voulais revenir sur le féminisme, vous dites que même vous, en tant que personne noire, vous n'êtes pas inclus, justement, dans ces combats féministe, c'est-à-dire qu'on parle des personnes blanches, mais assez rarement des jeunes filles.
Oui, parce qu'en fait, logiquement, le mouvement féministe en France est porté majoritairement par des femmes blanches qui vont quand même faire partie d'une certaine catégorie, d'une certaine classe, et du coup, qui vont se battre pour des avancées qui les touchent personnellement. Et du coup, c'est pas forcément les mieux placées pour se battre pour les femmes auxquelles elles ne ressemblent pas, en fait, parce qu'elles n'ont pas le même vécu, elles n'ont pas le même regard aussi sur les oppressions. Donc, il n'y a pas nécessairement cette représentation-là.
Oui.
Et du coup, c'est nécessaire, finalement, de sortir un petit peu de cette neutralité blanche-là et d'inclure
toutes les femmes,
pour que la femme, comme on aime bien dire la femme, pour moi, il n'y a pas d'entité femme, mais il y a les femmes, mais pour que, justement, dans le féminisme, toutes les femmes soient représentées. Donc, certes, qu'il y ait de l'espace pour les femmes blanches qu'elles s'expriment, mais elles ne peuvent pas s'exprimer pour toutes, parce que leur vécu n'est pas universel, en fait.
Oui, c'est ça. Et vous attaquez, vous dénoncez un peu ces femmes qui finalement s'occupent de ce qu'elles ne connaissent pas, quoi. Vous leur dites laissez-nous faire ce que l'on veut, parce que ce qu'elles dénoncent, et on peut comprendre, elles disent oui mais des femmes travailleuses du sexe sont souvent exploitées par des réseaux mafieux. Alors est-ce que c'est une image des années passées où on sait qu'il y avait des macs qui étaient derrière, il y avait des réseaux, etc. Vous vous dites dans votre livre, non, c'est pas ça, elles sont à côté de la plaque.
Et surtout c'est une... C'est faire des amalgames, encore une fois, de considérer que les esclaves sexuelles, donc celles qui sont vraiment sous le joug d'un proxénète, c'est la même chose que les prostituées.
Ouais.
C'est pas du tout la même chose. À partir du moment où on est exploité, c'est de l'esclavage sexuel, c'est pas de la prostitution libre, en fait. Donc moi, je parle de prostitution. Je pense qu'on est toutes et tous d'accord pour dire que l'esclavage, en règle générale, est quelque chose à bannir et quelque chose à combattre. Mais le problème, en fait, de ces féministes abolitionnistes, c'est qu'elles veulent faire vraiment un amalgame entre la prostitution et l'esclavage, et sous prétexte qu'il y aurait de l'esclavage sexuel, du coup, empêcher les prostituées de faire leur travail. Et du coup, pour moi, c'est pas du tout logique. Si vous voulez, c'est comme si on dénonçait l'esclavage, on dénonçait l'exploitation de l'industrie textile, de la fast fashion, et Et pour ce faire, on empêchait les couturières de Dior de travailler. Enfin, ouais. ça n'a pas de sens.
Et vous, à travers votre personnalité et ce que vous dites et ce que vous écrivez, vous dites, moi, je suis libre, je suis consciente, je ne suis pas exploitée, etc. Je fais un peu ce que je veux, quoi. Quand on vous entend parler, on se dit, oui, c'est pas une fille qui est sous le coup de réseau, quoi.
Mais en fait, il y a plusieurs strates à combattre, en fait. Ouais. Quand on veut s'exprimer en étant travailleuse du sexe en France, on doit faire face à un stigma qui fait que systématiquement, on est infantilisé. Donc, notre parole, de toute façon, vaudra moins qu'une femme qui n'est pas travailleuse du sexe, parce qu'on se dit que rien que pour avoir fait ce choix-là, on ne doit pas penser droit, en fait.
Ouais.
Et du coup, il y a déjà ça à dépasser. Ces stéréotypes aussi qui disent qu'on est aliéné, qu'on est perdu, qu'on fait ça parce qu'on ne sait rien faire d'autre.
Ouais.
Tout ça, déjà, il faut dépasser ça pour réussir à être considéré d'égal à égal dans un débat et pouvoir s'exprimer.
Ouais. Justement, je regardais ce qui se disait autour de vous et beaucoup de gens se posent la question en disant « Est-ce que c'est un métier ?»
Oui,
voilà.
C'est un métier, comme tout métier, il y a des choses à savoir faire, il y a des méthodes, il y a des façons de faire, il y a des choses qui s'apprennent, c'est un métier. Et c'est pas seulement l'aspect sexuel, il y a l'aspect sexuel, ça c'est indéniable, mais c'est aussi un rapport à l'autre, de l'écoute, un rapport vraiment humain, être capable de donner de l'affection, de pouvoir... tenir des conversations, etc.
Mais vous, à partir de quel moment vous avez eu ce déclic de se dire « je vais être prostituée » Enfin, je ne sais pas, vous avez été effeuilleuse, danseuse, stripteaseuse...
Ça a été dans crescendo, je n'ai pas eu de... Je rêvais pas de ça quand j'étais petite. J'ai commencé justement par les feuillages érotiques, et puis ensuite, je suis allée en club de striptease à Genève, là où la prostitution est tolérée, du coup, en Suisse, et les clubs ont des systèmes où les danseuses qui sont aussi escortes peuvent repartir avec des clients. Donc moi, qui n'avais pas nécessairement prévu faire de l'escorting, un soir, je suis tombée sur un client avec qui j'ai passé la soirée.
Un Norvégien, voilà,
Et ça a été, du coup, ma première expérience d'escorting. Et ça m'a plu, et c'était pas du tout violent psychologiquement. Je suis pas rentrée chez moi à me frotter 3 heures sous la douche. Enfin, voilà. Loin de tous les clichés qu'on peut s'imaginer, c'était juste sympa, drôle, inattendu. Et quand je suis rentrée en France, du coup, j'ai continué de temps en temps à le faire.
Oui, mais après, on ne peut pas faire la promotion pour la promotion quand même de
la prostitution. Non, je ne fais pas la promotion.
Elle parle de son expérience.
Je parle de mon expérience. Oui, et justement, c'est un témoignage qui manque, un type de témoignage qui manque, parce qu'on fait volontiers la promotion des Christiane F., des femmes qui sont des filles de joie triste, des femmes qui ont connu des violences dans des réseaux de trafic. Ça, on en parle volontiers. Et bizarrement, dès qu'on parle de l'inverse, en fait, de quand ça se passe bien, d'un coup on est accusé de faire de la glamourisation, mais c'est pas ce que je fais. Je veux juste faire exister cette représentation-là, côte à côte avec les autres, que les gens puissent ensuite se faire leur propre idée sur la question et qu'on ne leur martèle pas des idées préconçues.
Non, mais bien sûr.
Avant de prendre quelqu'un en ligne, Soraya qui est avec nous, qui va au 0826-300-300, vous avez même dit dans une interview, ce qui est assez étonnant, c'est comme un boulot normal. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai très envie d'y aller et il y a des moments où j'ai pas du tout envie d'y aller.
C'est comme pour tout le monde, je pense. C'est vraiment qu'au travail du sexe qu'on demande « vous êtes heureuse dans ce que vous faites ?» On ne demande pas ça à la femme de ménage, on ne demande pas ça au trader qui a fait 6 burn-out. Enfin, tout le monde doit travailler, en fait, pour vivre dans cette société. On est dans une société capitaliste, donc... Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un boulot qui le passionne et ça peut arriver aussi pour les travailleurs du sexe. Il y a des travailleurs du sexe qui ne sont pas passionnés mais qui le font parce que c'est leur travail.
Parce que elles gagnent de l'argent et gagnent leur vie, quoi.
C'est
ce que vous racontez, en fait. Vous dites, moi j'aime autant en faire ça que d'aller effectivement dans un bureau travailler avec...
Je sais que ça, je ne pourrais pas, par exemple. À l'inverse, il y a des gens qui préfèrent volontiers travailler dans un bureau plutôt que de vendre des services sexuels à des inconnus. Et je les comprends aussi.
Ouais. Est-ce que vous avez dialogué justement avec des féministes qui sont pures et dures et contre cette prostitution.
Mais je suis une féministe pure et dure.
Non, mais qui sont contre. On le voit, vous le défendez, mais qui sont contre, justement, les actes de prostitution.
C'est très difficile de dialoguer avec les représentantes du féminisme abolitionniste, souvent quand on est soi-même travailleuse du sexe, parce qu'elles ne veulent pas.
Entendre réellement. Ce que vous dites.
Non, elles ne veulent pas entendre. Elles vont souvent renvoyer des expériences de victimes de trafic et dire bon, voilà, dans ce cas-là, si vous avez ce discours, dites-le à cette personne. Mais elles sont très véhémentes, en fait. Et du coup, c'est très compliqué de réellement
échanger. Elles vont chercher,
échanger.
D'ailleurs, des témoignages de femmes exploitées, quoi,
dénoncer. Pour les instrumentaliser, pour vraiment servir leur idéologie. Mais il n'y a pas de dialogue nécessairement possible.
Ouais. Et nous avons au standard 0826-300-300 Soraya qui nous appelle des Hauts-de-Seine. Bonjour, Soraya.
Oui, bonjour. Bonjour à tout le monde.
Oui.
Bonjour.
Bon, sans rien, vous avez entendu Bertoul Borebecq. Quelle est votre opinion et votre réaction?
Alors, mon opinion, c'est que je suis très heureuse qu'une femme puisse parler de ce métier, que je n'appellerai pas prostitution, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de péjoratif et que la première chose à faire, c'est à changer le nom de ce métier. Prostitution, il y a déjà quelque chose de déshonoré, ce qui me gêne beaucoup. Et travailleuse du sexe, je vois pas pourquoi est-ce qu'on appelle une chanteuse travailleuse de la voix. Voilà, c'est pas une travailleuse du sexe.
Mais est-ce que vous avez un nom à nous proposer?
Je n'ai pas de nom à vous proposer, mais ça peut être quelque chose qui est en rapport avec l'amour, avec l'harmonie, avec le corps et l'amour, le corps et l'esprit. Je pense que quand on fait du sport et quand on est prof de sport, c'est très gratifiant parce qu'on fait travailler le sport, on fait travailler le corps et l'esprit. Quand on permet à un homme de vivre une relation sexuelle qu'il ne peut pas vivre autrement et ailleurs, qu'on se fait payer parce que on a juste, comme vous le disiez si bien, madame, on a appris ce métier, on le fait la tête haute, on est exploité par personne. Quand on prend des enfants et quand on les fait travailler dans une usine pour faire des tissus, voilà, là c'est de l'exploitation. Quand on est proxénète et qu'on fait travailler des filles auxquelles on prend quasiment la totalité de l'argent et qui sont dépendantes d'un produit et qu'elles sont toxicomanes, c'est quelque chose qui est totalement à bannir et à... Voilà. Mmh. Une femme qui se sent utiliser son corps, savoir le faire, savoir payer, parce qu'elle sait qu'elle le fait bien et qu'elle apporte satisfaction, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas reconnu au même titre qu'une jolie voix que j'aurais envie d'entendre sur un CD ou à la radio.
Vous avouez, vous reconnaissez quand même que Soraya, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a beaucoup plus d'intimité. Quoi.
Donc mais qui détermine le degré d'intimité qui est supportable ou non? En fait, c'est comme pour tous les boulots. Hein. Personne ne force personne à le faire.
Oui. Sauf qu'il y a eu beaucoup d'exploitation et de trafiquants.
Mais c'est pas de la prostitution. On parle d'autre chose. Là, on parle du métier de prostituée. On parle de vendre volontairement des services sexuels. Et du coup, c'est pas la même chose. Enfin, je veux dire...
Vous avez l'impression de faire du bien?
Mais je le sais que je fais du bien quand je travaille. Bah, sinon, je ferais pas ce travail. Sinon, je serais mauvaise dans ce que je fais. J'ai pas le sentiment de l'être.
Mais du bien, pas physique, hein, du bien moral aussi. C'est
important. Oui, mais je parle des deux. Bien évidemment, je parle des deux. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Et je suis assez d'accord avec Soraya sur ça. C'est politique aussi, je pense, de s'appeler travailleur et travailleuse du sexe. Parce que justement, on est dans une société où le sexe est un sujet tabou. Moi, j'ai toujours trouvé ça absurde parce que c'est quand même l'acte qui est à l'origine de nos existences. Mais bon, soit. Et du coup, politiquement, ça fait sens de revendiquer du coup qu'il peut y avoir des boulots sérieux, des métiers sérieux en rapport avec le sexe. Parce que le sexe, c'est un sujet sérieux. Et il n'y a pas de raison d'en faire un sujet tabou.
Allez, on a Kelly dans quelques instants qui sera en ligne.
Merci Soraya, vous pouvez rester avec nous si vous le désirez et continuer de parler et d'échanger avec Bertoul Borebecq. Je vous conseille en fait ce livre, Balance ton corps.
Remarquablement bien écrit.
Absolument, la musardine. Philippe Bilger me l'a déjà piqué en fait tout à l'heure. Philippe Bilger, vous avez regardé. Vous allez dire. C'est vrai parce que c'est pas simplement du témoignage, c'est un message véritablement aussi. Et c'est constructif. Voilà.
C'est un très joli message.
Oui, mais on continue. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h. N'hésitez pas, vous nous appelez.
9h46.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h10h. Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h49, c'est un beau sujet du vendredi, ça, le manifeste pour le droit des femmes à disposer
de
leur corps.
Pourquoi le vendredi, Cécile, c'est tout le temps?
Parce que les gens, plus le week-end que la semaine, s'occupent de leur corps, voilà. Ça s'appelle Balance ton corps, c'est Bertoul Borebecq qui est avec nous ce matin, et puis on a pas mal d'appels au 0826 300 300.
C'est Kelly qui est avec nous, du Vaucluse. Bonjour Kelly.
Bonjour Kelly.
Bonjour à vous, bonjour Bertoul.
Bonjour. Ouais.
Je trouve que les hommes, alors on va dire en général, l'être humain, a toujours tendance à vouloir maîtriser ce que fait l'autre. Et pour moi, il y a rien de plus fondamental que de savoir que notre corps nous appartient.
Absolument.
On a toujours tendance à dire « Ah, fais pas ci, fais pas ça ». Mais fondamentalement, qui est-ce qui vit la chose? c'est pas celui qui donne le conseil, c'est celui qui le vit. Et si Berthoul a décidé de faire ça, pourquoi est-ce que quelqu'un s'arrogerait le droit de lui dire fais pas ci, fais pas ça? Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Pour moi, une travailleuse du sexe, comme il l'appelle, c'est quelqu'un qui fait un choix.
Et en tout cas, ça doit être comme ça.
Et c'est son droit. Il y a personne qui a le droit de lui dire « tu fais pas ça avec ton corps ». Si elle l'a décidé elle-même, si elle n'a pas eu de pression, évidemment, parce que comme il a été dit tout à l'heure, il y a des enfants qui sont exploités.
Oui.
Plus gravement que ça, d'ailleurs. Donc, à partir du moment où on est adulte et où on prend ses décisions, je ne vois pas quoi ça peut déranger qui que ce soit.
Oui, alors voilà. Kelly, c'est ce qu'écrit Berthoul Borobec. Vous dites d'ailleurs à l'intérieur, il faut arrêter aussi que ce ne sont pas les hommes qui doivent maîtriser et nous contrôler. Il y a toujours... on a l'impression que c'est aussi un cri de colère contre le patriarcat, en quelque sorte.
Complètement, ça c'est sûr. Mais je suis vraiment d'accord avec ce que Kelly. Oui, moi je pars du principe qu'il faut vivre et laisser vivre. Et ça a l'air simple dit comme ça, mais les gens ont souvent le sentiment d'avoir le droit de donner leur avis sur tout. On a le droit d'avoir une opinion, mais je pense qu'il faut aussi réfléchir. Est-ce que mon opinion là, elle est légitime à donner? Est-ce que c'est pertinent que j'exprime ça? Est-ce que ça fera pas plus de mal que de bien, etc. Donc je pense qu'il faut être capable de respecter les choix des autres.
Et qu'est-ce que vous pensez de ce débat justement dans cette société qui s'offusque de tout, la façon dont les jeunes filles s'habillent à l'école par exemple?
Moi déjà, je pense qu'il faut remettre les choses à l'endroit, et à partir du moment où on laisse des adultes hypersexualiser des corps de jeunes filles et d'adolescentes. Déjà, c'est pédocriminel. Donc, je ne vois même pas comment c'est possible qu'on ait ce type de débat-là. Il faut remettre les choses à l'endroit. On parle de corps de jeunes filles. Donc, on va hypersexualiser des corps de jeunes filles en disant qu'elles sont habillées de façon sexy. Lorsque elles-mêmes ne sont même pas encore au courant de ce que sexy veut dire. Et quand on voit que sur des plateaux télé, c'est des hommes adultes, souvent... plutôt âgés, qui ont des débats, qui parlent du fait d'être déconcentrés par des crop-tops de jeunes filles, c'est juste immoral.
Ces petits t-shirts au-dessus du ventre.
On ne devrait pas avoir à entendre ce genre de choses.
Ouais. Non, mais vous pouvez reconnaître, parce que vous-même, vous étiez jeune, hein, vous le dites, vous étiez, entre guillemets, victime à un moment donné, vous vous sentiez trop regardé, etc.
Non, je ne sais pas que j'étais victime.
Ça me dérangeait. Bien sûr que ça me dérangeait,
j'étais une enfant. C'est normal, et c'est bien ça le problème.
Qu'on puisse les protéger au moment où certaines jeunes filles, notamment, ne sont peut-être pas suffisamment conscientes de leur corps.
Non,
quoi.
Justement. Non, le moment où elles ne sont pas conscientes de leur corps, c'est le moment où vous voulez justement les laisser tranquilles. Et ce n'est pas aux adultes de commencer à les sexualiser.
Oui, mais vous savez qu'il y a les ados, il y a des copains à côté. Quoi.
Bah dans ce cas-là, on éduque les garçons. On ne dit pas aux filles de se rhabiller. Parce que les filles ne sont pas des morceaux de viande. Elles ont le droit d'être à l'école autant que les garçons. Les garçons, on ne va pas polisser leurs vêtements. Alors on laisse les filles tranquilles. Quand il faisait des 35-36 degrés, qu'on les interdise d'aller en jupe à l'école.
Ou en short.
C'est n'importe quoi.
Il y avait une question de Philippe Bilger, l'ancien magistrat. Évidemment qu'il voulait pas
trouver.
Philippe Bilger, on va pas rester jusqu'à 10h. Sinon, vous resterez, vous allez animer Brigitte Lahaie cet après-midi à 14h. Mais Philippe, oui, approchez-vous du micro.
Est-ce que vous ne croyez pas que la réticence qu'on peut éprouver devant votre version de la vie et de l'amour vient du fait qu'on ne croit pas à une totale liberté de la part d'une travailleuse du sexe?
Mais si, complètement. Ça vient complètement de là, je pense. On pense que rien que le choix d'être travailleuse du sexe, ça parle de quelque chose qui ne tourne nécessairement pas forcément rond dans la tête. Donc ça veut dire qu'on a des problèmes, qu'on est aliéné, qu'on a besoin d'attention, qu'on est incapable de faire autre chose. Il y a beaucoup de stéréotypes.
Et même au-delà, une dépendance beaucoup plus grave, dépendance économique. Vous avez répondu à Patrick Roger qu'en réalité, vous êtes complètement libre. Probablement des gens en doutent.
Oui, ils peuvent en douter. Mais après, au bout d'un moment, tout ce que je peux faire, c'est partager mon témoignage, partager
à travers ce livre,
mon vécu, mon point de vue, ma vérité et les faits. Et les gens peuvent choisir d'en douter ou pas. Mais je ne peux pas donner de preuve de mon honnêteté.
Oui, alors Philippe Bilger, pendant la pub, disait aussi, Berthoul, mais est-ce que quand même ça ne vous pose pas un problème d'offrir votre intimité? Parce que, non mais c'est ça aussi en fait.
Oui. Ouais. Alors j'ai répondu à ça en disant que je n'offrais pas mon intimité, que je vendais des services sexuels. J'ai encore toute mon intimité, hein. Ce serait un petit peu inconvenant de vous le prouver, mais je l'ai encore.
Ouais.
Et mon corps m'appartient toujours quand je vends des services sexuels, comme l'ouvrier qui va se casser le dos à casser des pierres et voilà, il se brise le dos, quelque part, il donne de sa santé pour son petit chèque en fin de mois. Mais en fait, on vit dans une société où on n'a pas le choix de travailler pour de l'argent.
Oui, oui.
Donc on met toujours son corps à profit.
Et Berthoul, l'amour là-dedans, demain, vous tombez follement amoureuse de quelqu'un, qu'est-ce qui se passe?
Mais j'ai déjà des relations amoureuses avec des gens.
Et ça ne vous empêche pas, évidemment, de continuer votre métier, quoi?
Non, en fait, en réalité, je relationne qu'avec des personnes qui sont... plutôt au diapason avec mon mode de pensée.
Ouais. Est-ce que vous avez, tout à l'heure, vous nous avez dit que c'est difficile d'avoir un dialogue avec les opposants, en fait, à la prostitution. Est-ce que, à travers aussi ce livre, vous voudriez interpeller des ministres, je pense à Marlène Schiappa, qui parle beaucoup, en fait, de ces questions, et d'autres, pour remettre ce débat sur la table? Parce que bien souvent, on a l'impression que tout ça est, continue sous le manteau, caché plus ou moins la prostitution.
Oui, parce qu'en réalité, il y a aussi une espèce d'incohérence juridique en France par rapport à la prostitution, à savoir la prostitution en elle-même n'est pas une activité illégale, par contre, être client est illégal.
Oui.
Donc ça contribue à rendre la vie des prostituées beaucoup plus compliquée, parce que d'un coup, on donne le pouvoir décisionnaire aux clients. Ils peuvent décider que comme ils sont en danger de se faire arrêter, ils veulent aller dans un endroit plus reculé. Donc la personne qui va travailler, du coup, sera moins en sécurité si le client s'avère être un agresseur. Ils peuvent négocier les tarifs, ils peuvent négocier les pratiques, parce que du coup, il y a moins de clients, ce genre de choses. Donc moi, ce que j'aurais à dire au gouvernement et aux personnes qui prennent les décisions, c'est de laisser les concernés s'exprimer sur leurs besoins, sur ce qu'il faut faire, et d'arrêter en fait de propager une idéologie pudibonde qui,
débat
finalement, en ne rend service à personne.
Et peut-être la réouverture des maisons closes.
Ça, je ne suis pas nécessairement pour, et c'est un débat assez complexe.
Ah bon, après, vous n'allez pas rouvrir cet autre débat.
Par qui sont gérées les maisons closes aussi, etc.
Bon, en tout cas, voilà, et à vous écouter, à vous lire, mais aussi à vous écouter ce matin, et Philippe Bilger également, et tous les auditeurs, on voit quand même que vous êtes libre dans votre tête, et libre, évidemment, avec votre corps. Balance ton corps, manifeste pour le droit des femmes, justement, à disposer de leur corps. Berthoul Borobec, c'est aux éditions La Musardine, et puis j'en profite pour renvoyer aussi à Brigitte Lahaie cet après-midi, 14h, 16h, bien sûr. Et puis ensuite, toutes vos confidences aussi avec Trina. C'est votre avenir avec Alexandre Delovan.
Et vous pouvez vous confier partout, tout au long de la journée, sur Sud Radio, quel que soit le sujet.
Dans les vrais voix, ce soir, avec Philippe Bilger, qu'on va retrouver aussi.
Confiez-vous à Philippe Bilger ce soir.
Merci, bon week-end. Merci dans un instant, Valérie Expert, Philippe David sur le pont pendant le week-end. N'oubliez pas, grand week-end aussi, rugby avec François Trio. Allez hop, on y va, dans la mêlée. Ciao.
Et nous, on se retrouve lundi. Salut.